C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on commence ce matin par ce concept, celui de du corridor scolaire qui fait son entrée dans le code de la sécurité routière. Mais souvent, comme c'est le cas au Québec, nous avons un concept, une idée, un registre, mais il n'y a rien de contraignant, il n'y a aucune obligation pour les villes d'en établir autour des écoles. Est-ce qu'on aurait dû l'obliger? Est-ce que c'est une occasion manquée? Nathalie.
Ben, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais moi, je ne crois pas que ce soit une occasion manquée. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, mais une ville ou une municipalité au Québec souhaite implanter un ou des corridors sur son territoire. Des corridors scolaires peuvent le faire. D'ailleurs, c'est pas un concept qui est nouveau, là. Ça doit faire bien plus de 10 ans qu'on implante au Québec des corridors scolaires. Avant de s'insurger et conclure que c'est une occasion manquée, il faudrait peut-être voir combien de villes ou de municipalités résistent à cette idée au Québec d'implanter des corridors scolaires sur son territoire. En fait, pour moi, l'occasion manquée, elle est plutôt du côté des radars photo, parce que la ministre des Transports, qui s'est réjouie d'ailleurs de cette introduction de ce nouveau concept dans le code de la sécurité routière, dit « Pour les corridors, pas d'obligation, je vous fais confiance aux municipalités des villes, mais pour ce qui est de déterminer ou d'implanter des radars photo dans certains secteurs, dans les zones scolaires, en fait, dans certaines zones scolaires, ah, là, non, ça relève pas de votre responsabilité, ça relève de la mienne, ça relève du ministère des Transports. » Alors moi, je vois, il y a un double discours de ce côté, et je trouve ça extrêmement dommage parce que les municipalités, les villes connaissent très bien leur territoire et si un joueur qui est habilité à déterminer la pertinence d'un radar dans telle ou telle zone scolaire, c'est bien les villes et les municipalités, en concertation bien sûr avec les centres scolaires, les centres de services scolaires et les directions d'école. Et ce que je souhaite ajouter, c'est que cette introduction au code de la sécurité routière de ce concept de corridor scolaire, c'est nouveau. Je le disais, la ministre s'est réjouie de ça. C'est une première, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est lent et c'est compliqué amender le code de la sécurité routière. C'est pas un concept qui a émergé là, hier là, dans l'espace public ou il y a 2 ans, 3 ans. Là. Je le disais, ça fait plus de 10 ans et là, ça a pris tout ce temps-là avant de l'introduire. Parce que dans le code, il y a le concept de la zone scolaire, mais le concept du corridor scolaire n'existait pas. Alors, la ministre a fait un pas, mais c'est pas évident. Hein. C'est les changements aux lois, là, ça se fait pas en claquant des doigts.
Hourra la ministre. Vraiment, depuis son arrivée, d'abord, cette déclaration nette, franche et précise sur le troisième lien, puis ensuite, ces déclarations, ces mises en œuvre de modifications importantes au code de la route, notamment la possibilité des villages et des villes de traiter comme une rue, une route nationale qui passerait devant un établissement scolaire, par exemple. Donc, la possibilité de faire une zone scolaire devant un établissement scolaire, même si, mettons, c'est la 117 qui passe devant ton école. Et ça s'était jamais vu. Après ça, il y a eu le plan de sécurité routière avec 180 millions de dollars en aménagement pour aménager les routes autour, justement, des parcs, des écoles, des endroits où il y a de la mortalité de piétons, et en particulier les écoles. Et là, maintenant, cette modification qui permet aux municipalités de gérer les corridors scolaires. Parce que la zone scolaire, c'est 50 mètres autour de l'école dans la ville, c'est 100 mètres autour de l'école en zone rurale. Le corridor scolaire, c'est tout le chemin qui mène des maisons des enfants jusqu'à l'école. Donc, c'est beaucoup plus long. Et ça vient avec des conditions. Tu peux pas dire, ça s'appelle un corridor scolaire, je vais mettre la petite affiche corridor scolaire qu'on connaît bien, là, qui se met en haut de la rue, puis je ferai rien. Parce que si ta rue à 50 mètres de large, puis t'écris ce corridor scolaire, puis tu le mets à 30 km/h, tu fais, ça sert à rien, les gens vont pas rouler à 30 km/h. Alors, il y a un fonds qui vient pour aménager, réaménager. Mais ça ne suffit pas, il y a des conditions, il y a des conditions précises pour une zone scolaire. Donc, par exemple, les passages piétons. Puis j'accueille avec beaucoup de plaisir la proposition de Nathalie, à dire, pourquoi pas les zones de radar sur les passages piétons. Une façon aussi de faire des passages piétons qui vont être respectés 100 mètres de radar, c'est de les surélever, de les entourer de bacs, de gros bacs de béton dans lesquels on plante des fleurs, et mettre ces bacs-là au milieu de la rue pour que la zone de passage pour la voiture soit de moins de 3,5 mètres. Elle est obligée de rétrécir. Et puis si à cet endroit-là, tu mets aussi des clignotants au magnésium là, qui envoient une lumière blanche très forte, puis ou des feux de circulation, ben là, tu viens d'avoir une vraie traverse piétonne. Et donc, le total de tout ça, ça donne un vrai engagement pour la sécurité des enfants sur le chemin de l'école.
Ouais, là qu'on s'entend, là, le concept de corridor scolaire existait bien avant aujourd'hui. Là.
Oui, mais là, la municipalité peut gérer.
Ben, en fait, elle avait cette possibilité avant de l'implanter. Tu as tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il y a des conditions rattachées à ça. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que on voit en tant qu'automobiliste et en tant que citoyen à quel point c'est un concept qui évolue. Rappelez-vous, lorsque on était plus jeune, on allait à l'école. Là, les zones scolaires, ça n'existait pas. Les dos d'âne, il n'y en avait à peu près pas. Mon Dieu, le concept de corridor scolaire, oubliez ça. Là, ça n'existait vraiment pas. Et avec les années, ben, les choses se sont... En fait, on a amélioré la sécurité autour de nos écoles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on estime que 70 % des élèves qui arrivent à l'école par transport motorisé, soit par autobus ou encore avec les parents qui viennent conduire leurs enfants. Moi, lorsque j'étais jeune, les parents venaient pas conduire les enfants à l'école. On allait à l'école soit à vélo ou soit à pied. Alors, les risques d'accident ont augmenté avec les années et à un point tel qu'en octobre 2023, le CA, tenez-vous bien, confirmait qu'il y a 7 comportements dangereux qui se produisent à chaque minute dans les zones scolaires. C'est énorme. Mmh. Donc, il y a encore beaucoup trop de morons qui se comportent comme des caves dans les zones scolaires. Ça, c'est épouvantable.
Et parmi tes morons, t'es obligé de le dire, ouais. Beaucoup de parents.
Mais oui.
Ce qui peut paraître contradictoire, là, mais oui. C'est quand même une réalité. Je voudrais juste élargir la discussion un peu. Il y a un coroner qui a rendu un rapport sur la mort l'été dernier, au mois de juin.
Flavien, Saint-Flavien?
Non, c'était une jeune femme qui est morte.
Ah oui.
À Montréal.
Oui, c'est bon ça.
Bon, et c'est un camion qui l'a frappé. Le camion était dans une zone où les camions sont interdits. Le coroner a dit il n'a pas fait un arrêt formel, mais en même temps, en disant c'est rare les gens qui s'arrêtent complètement. Et il a fait une série de recommandations pour modifier les signaux sur les véhicules. La Société d'assurance automobile du Québec dit si on met plus de bruit, plus de lumière, ça va distraire, ça va banaliser, donc on n'ira pas là. Juste pour poursuivre la discussion sur la sécurité des piétons, est-ce qu'on devrait équiper des camions où il y a des angles morts de plus de quincaillerie pour justement détecter la présence ou manifester leur présence quand quelqu'un traverse la rue comme ça? T'en penses quoi, toi?
Mais moi, j'en pense que la grosseur des camions qu'on a ici, puis la fréquence de leur passage, parce qu'on a donc un hiver, puis que il faut que les camions circulent, c'est des gros camions, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de rénovations dans nos villes. C'est un monde en construction, hein? Donc on n'est pas dans un village européen où tout a été construit il y a 200 ans. Et donc, il y a beaucoup de camions qui sont énorme. Il y a beaucoup de villes où il n'y a pas ça. Là. Notre ville est particulière. Notre province est particulière. Et donc, oui, le plus possible d'équipement. Parce que moi, j'étais flabbergasté. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire que c'était criminel. C'est correct. Criminel, ça, il faut qu'il y ait une intention criminelle. Il n'y a pas d'intention criminelle. Mais il y a un geste fabuleusement dangereux. Alors, comment tu pénalises un geste fabuleusement dangereux si tu ne le pénalises pas en le déclarant criminel? Ben, il n'y a rien là, entre le code de la route puis le code de légal. Je sais pas comment on appelle le code légal qui détermine que c'est criminel, un comportement criminel en voiture.
Code criminel,
mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Ben, il n'y a rien entre les deux. Et moi, je trouve ça désolant que le chauffeur de camion puisse partir en se lavant les mains. Ou alors... On empêche son comportement. On empêche le comportement en mettant justement des alarmes, des caméras qui permettent... Parce que lui, il l'a pas vu. Dit-il, il l'a pas vu, ça se peut. C'est possible. La fille était dos au camion quand elle a traversé. Le camion est arrivé dans son dos. Elle non plus, il l'a pas vu. Puis, il a tourné. Dit-il, il a jamais vu marcher sur le trottoir. Puis, quand il était rendu près de son capot, il pouvait plus la voir. Alors, il aurait fallu que quelque chose la détecte à ce moment-là.
Mais le meilleur exemple, c'est peut-être les autobus scolaires, parce qu'avec les années, on a doté les autobus de toutes sortes d'équipements pour améliorer la sécurité des jeunes qui quittent l'autobus. Il y a le fameux le panneau arrêt, c'est-à-dire il y a l'espèce de grande bande là réfléchissante qui se déploie. Il y a des chauffeurs d'autobus qui pensent qu'on devrait installer une caméra sur chaque autobus pour améliorer encore la sécurité des jeunes.
Et pouvoir donner des contraventions.
Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Alors, dans le fond, c'est un processus qui peut être amélioré. Là, ça, c'est un très très bon exemple. Mais le cas que tu soulèves, c'est triste parce que le monsieur, le chauffeur du camion, il est fautif, mais en même temps, il n'a pas été reconnu coupable de rien. Mais clairement, lorsqu'une recommandation est faite par un coroner, ça pourrait certainement inspirer les autorités. Puis vous savez à quel point les recommandations des coronaires sont suivies. Hein?
Peu.
Ouais. Ben, c'est
peu,
ça, c'est pour ça que je l'ai dit.
Après très longtemps.
Puis je peux vous dire que un camion qui est dans une zone où il ne devrait pas être, là, c'est presque impossible à pénaliser. Là. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit oui, mais je faisais une livraison. Oui, mais la route là est fermée, est barrée, fallait que je passe. Tout le temps. C'est très, très rare qu'ils sont pénalisés.
Au retour, on va parler de ce débat entre M. Trudeau et M. Legault sur l'immigration, puis est-ce que ça va se terminer par un référendum?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le dossier de l'immigration, une fois de plus, M. Legault jongle avec l'idée de peut-être, si jamais il n'y a pas d'entente avec le fédéral, de demander aux Québécois de se prononcer sur l'immigration, par exemple sur les travailleurs temporaires, par le biais d'un référendum. Il n'a pas dit « je vais le faire », il a dit « c'est une des possibilités que je regarde ». Est-ce que c'est une bonne stratégie, un référendum?
Ben, c'est rigolo. C'est pas besoin d'aller au théâtre. T'as pas besoin de payer pour des billets, crime, quand tu vois ça dans les journaux. D'abord des fleurs pour le premier ministre. Des félicitations, parce que là, il a arrêté de parler juste des demandeurs d'asile. Ça commence à être fatigant. Et là, il a parlé des travailleurs temporaires. Parce que sur 520 000, là, le dernier décompte là, que j'avais vu, de personnes présentes sur place, c'est pas annuel, mais présente sur place, c'était 520 000. Là-dessus, il y en avait 30 % qui étaient des demandeurs d'asile, 70 % qui se divisaient en trois autres catégories. Les permis d'études, les permis de travail gérés par Québec, les permis de travail gérés par Ottawa. Okay? Et donc, là, félicitations au premier ministre parce qu'il prend l'ensemble du dossier au lieu juste de tout le temps focaliser sur les demandeurs d'asile. Maintenant, moi, je me fie sur la chronique de Anne-Michelle Meigs, c'est l'ancienne directrice de la planification puis de la rédaction de comptes du ministère de l'Immigration. Elle a publié l'Immigration au Québec. Et là, elle met une fois pour toutes carte sur table. Là, elle va arrêter une liaison, arrêter de jouer au fou. Voici les règlements, voici les lois qui encadrent l'immigration au Québec. Les demandeurs de permis pour les études qui représentent 46 % de l'ensemble hors réfugiés. OK? Donc, t'es réfugié d'une part. Qui représente 30 %, il reste 70 %. Dans ce 70 %-là, il y a 46 %, ce sont des étudiants. Et 17 %, c'est des réfugiés gérés par, c'est des travailleurs gérés par Québec. 36 %, c'est des travailleurs gérés par Ottawa. Mais il y a une disposition dans la loi, claire, nette, précise, qui dit qu'ils ont besoin d'un certificat d'autorisation et que Québec ait tout à fait le droit légal dans la Constitution actuelle et sans modification, sans référendum, juste lors du prochaine rencontre du comité mixte de travail fédéral-provincial qui encadre les relations fédérales-provinciales sur l'immigration, de dire « je veux que ce chiffre diminue parce que je vais émettre moins d'un certificat ». Point final. Pas besoin de référendum.
Vous rappelez-vous de la chanson de Paul Biché? Oui, c'est la chanson qui m'est venue en tête en faisant mes recherches sur le sujet cocher oui, cocher non. Je doute que les Québécois aient le goût de cocher oui ou cocher non sur l'enjeu de l'immigration. Là, on assiste à une grosse game sur le plan politique en ce moment. Et il y en a un qui jubile, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, tu prononces un mot référendum, puis écoute, là, c'est le nirvana, vous comprenez? Alors, il est bien, bien content que M. Legault envisage cette possibilité. Mais entre ce que le premier ministre dit au micro, puis tu as référé, Paul, tu sais, le premier ministre a le micro sous le nez. M. Legault, envisagez-vous un référendum en immigration? Le premier ministre ne peut pas dire non. Il va dire oui. Tu sais, il dit je ne l'exclus pas. Mais c'est pas parce qu'il affirme qu'il ne l'exclut pas que le référendum va se produire. Et parce qu'au bureau du premier ministre, là, je peux vous dire une chose, qu'ils ont absolument pas le goût de faire un référendum sectoriel sur les pouvoirs en immigration. La meilleure stratégie demeure celle du dialogue. D'ailleurs, jamais le Québec n'a tenu de référendum sur l'immigration. À chaque fois qu'on a signé une entente, deux ententes dans l'histoire du Québec, ça a toujours été par la voie de la négociation. Alors, c'est celle-là qui est la plus sage. Ce que le gouvernement du Québec essaie de faire, c'est de se créer un rapport de force avec Ottawa qui là, a fait certaines admissions sur la réalité proprement québécoise. M. Legault, c'est-à-dire M. Trudeau, de même que Mark Miller, ont admis que le Québec faisait plus que sa part. Même Pablo Rodriguez l'a dit aussi. Là, les deux hommes se sont rencontrés le 15 mars dernier. Prochain rendez-vous, 30 juin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe depuis le 15 mars? Là? Bien, les chefs de cabinet des deux premiers ministres se parlent, les ministères se parlent, les ministres d'immigration se parlent. Et là, on essaie de voir comment l'entente qui lie le Québec avec Ottawa pourrait être ajustée pour donner un petit peu d'oxygène au Québec. Mais le nerf de la guerre, on s'entend, les amis, là, c'est le cash. Là. C'est l'argent qui est prêt à mettre Ottawa sur la table pour compenser Québec.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qui va faire partie du camp du non?
Ben, ça dépend comment il a posé la question.
Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord pour que Québec ait tous les pouvoirs en matière d'immigration? Y a-t-il quelqu'un qui va dire non?
Ben non.
Mais là, tu as déjà laissé la question.
Mais la question
d'avoir.
Mais moi, j'en ai une autre question. Est-ce que vous réalisez que Québec a actuellement tous les pouvoirs pour gérer l'immigration?
Là, il y aurait du monde dans le camp du non.
Ben oui, c'est ça, il y aurait du monde.
Effectivement. Mais dans le fond, c'est intéressant, pas la question que tu soulèves, parce que ça démontre à quel point on n'a pas besoin de référendum. Parce que la réponse est évidente. Il y en a qui pensent qu'on devrait réouvrir l'entente. Le premier ministre à Ottawa pense qu'on devrait ajuster l'entente. Mais clairement, là, on a un nœud qu'il faut résoudre.
Mais c'est pourquoi Nathalie ne sera pas résolue, le nœud? C'est parce qu'en ce moment, la posture du gouvernement Legault, c'est de dire les méchants, c'est le fédéral. Mais si tout le monde comprend que le Québec a le pouvoir, à travers l'entente, de mettre fin, de diminuer le travail temporaire, tout à coup, le méchant, ça va être Québec. Parce que là, tu vas avoir des centaines d'employeurs qui vont dire à Québec, voyons donc que tu vas me couper mes employés temporaires, toi. On l'a vu quand les Mexicains n'ont pas pu commencer l'achat à la pêche aux crabes, les hurlements en disant, ouais, vous allez nous donner nos employés. Mm-hmm. Puis pareil, quand l'usine de crevettes a fermé à Matane, flambé par la suite.
Mais je te confirme, je vous confirme que ça fait juste commencer la pression des employeurs sur le gouvernement. Là. Parce que là, le gouvernement a dit pour les travailleurs temporaires, on va diminuer leur nombre, mais on ne touchera pas à l'agriculture. Ah oui, mais c'est quoi le plan, là? Parce qu'il y a des employeurs qui attendent, pour qui les travailleurs temporaires étrangers sont indispensables.
Et là, Québec se mettrait dans cette position-là de dire non à tout le monde.
Et n'oublions pas non plus la réunification des familles.
Tout à fait. Oui,
et comme me disait quelqu'un, quand tu permets à un conjoint, par exemple, à un mari de revenir trouver sa famille ici, là, t'as pas d'enjeu de logement. Là. Normalement, il y a quelqu'un qui reçoit. Oui. Là. T'sais, mais il y a beaucoup de divisions, en fait, de catégories plutôt, je devrais dire. Il y a beaucoup de catégories. Puis à chaque fois, ça peut être justifié réunir des familles, des travailleurs, parce que les besoins sont là dans le marché.
Ah, il y a pas de truc facile. Hein, parce que quand tu parles de réunion des familles, là, ce dont on perd beaucoup de gestionnaires de l'immigration, c'est que ça soit en deux temps. D'abord, réfugié politique, d'une part, demande d'asile. Puis une fois la demande d'asile, réunification des familles. Or, le principe de réunification des familles au Canada, il est pas limité aux parents immédiats. C'est n'importe qui dans la famille, cousins, oncles, tantes, etc. Alors, ça peut être des gros chiffres. Et la façon de Québec de gérer ça, c'est de dire, oui, mais je vous donne pas les permis. Vous avez rempli vos documents, mais vous aurez jamais le permis. Et c'est donc des attentes qui durent 3 ans, 4 ans, avec des enfants séparés de leur père, etc.
Ouais, le délai est 33 mois minimum pour le Québec. Mais Luc, n'oublie pas que les certificats de sélection du Québec souvent ont été accordés et les personnes continuent d'espérer. Un exemple concret, parce que j'accompagne un chauffeur de la STM. Sa femme est en République dominicaine avec sa fille et il est marié avec elle depuis quoi maintenant? Un peu plus d'une année. Lui, il est au Québec depuis la fin des années 80. Il a sa citoyenneté canadienne et tout. Il est prêt, là. J'espère parce que sa sécurité, lui, prétend que sa sécurité est mise en danger là-bas et je le crois. Je suis prêt à accueillir ma femme et sa fille. Puis imaginez, là, comme tu dis, Paul, lui, évidemment, il est responsable de les loger, de les nourrir. Mais même matin, cette femme-là pourrait se retrouver sur le marché du travail. Alors, mais j'ai envie de vous dire, si on réduit le nombre de travailleurs temporaires, pourquoi pas combler la diminution par un nombre équivalent de personnes qui pourraient être accueillies dans le cadre des réunifications familiales, juste de même. Là. Mettons que
ben non, dis, parce que là, tu vas arriver au même chiffre qui est un chiffre bien trop élevé.
Non, mais c'est parce que en réunification familiale, le logement, c'est réglé, la question, c'est tout est réglé déjà, enfin.
Très bien, on s'arrête là-dessus, on vous retrouve demain.
C'est 23.